VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
16h à Conakry, 17h à Kinshasa, bienvenue à notre journal. Attentat de Paris, le président français François Hollande a réitéré aujourd'hui la détermination de la France de combattre les auteurs des attaques qui ont fait 129 morts et plus de 350 blessés. Et ce, dans un discours à une session conjointe de l'Assemblée nationale et du Sénat, un extrait des propos du président français.
Les terroristes croient que les peuples libres se laisseraient impressionner par l'horreur. Il n'en est rien. Et la République française a surmonté bien d'autres épreuves. Elle est toujours là, bien vivante. Et ceux qui ont entendu la défier ont toujours été les perdants de l'histoire. Il en sera de même cette fois-ci encore.
Le président François Hollande à Paris. Plus de 48 heures après les attentats, les autorités françaises sont déjà en mesure de révéler des informations précises et importantes pour la suite de l'enquête. Depuis Paris, notre correspondant Christian Mpanzou fait le point sur l'investigation.
5 des 7 kamikazes ont été formellement identifiés par la police scientifique. 3 d'entre eux sont français. Les enquêteurs sont dans l'attente de plusieurs informations concernant le 4e djihadiste identifié, puisqu'un passeport syrien a été retrouvé près de sa dépouille au Stade de France. Le 5e djihadiste identifié est belge. Il s'agit de Salah Abdeslam. Il serait un des artificiers du groupe et aurait loué une des voitures. Il est toujours en fuite. Les services de police français et belges travaillent d'arrache-pied pour retrouver sa trace. Durant toute la matinée, une vaste opération de police a eu lieu à Molenbeek en Belgique. Tout un quartier de cette commune connue pour abriter plusieurs mosquées radicales a été bloqué, mais sans succès. Salah Abdeslam n'a toujours pas été retrouvé. En ce moment même, la police néerlandaise mène également une opération de grande envergure pour interpeller un homme caché dans une grange à la frontière entre la Belgique et les Pays-Bas. En France, plus de 160 perquisitions ont eu lieu dans 19 départements, à Grenoble, Lyon, Strasbourg ou Lille. De nombreuses arrestations, pas forcément en rapport direct avec les attentats de vendredi, mais un véritable coup de filet dans les milieux radicaux de l'Hexagone. Depuis Paris, Christian Mpanzou pour VOA Afrique.
Les attentats de Paris ont été unanimement condamnés en Afrique et notamment au Mali. Je vous propose ici d'écouter la réaction du chef de l'État malien Ibrahim Boubacar Keïta, recueilli par notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
Le monde entier a été frappé de stupeur, d'effroi, mais pas de peur, de résolution, de détermination, farouche, plus que jamais. Certes, on a frappé la France, mais c'est le monde, celui que nous préparons, qui est visé. Mais Inch'Allah, nous ferons en sorte que vos vies soient sauvegardées. Aucun être humain digne de ce nom ne peut tranquillement ôter la vie à autant de personnes innocentes. Aucune cause ne vaut cela. Cette abomination, nous sommes solidaires, totalement solidaires et en sympathie totale avec le peuple de France qui, il n'y a pas longtemps, a montré à notre peuple sa solidarité quand elle a envoyé ses fils mourir en terre malienne.
Un extrait des propos du président malien recueilli par Bamako par Kassim Traoré. Niger, l'opposant nigérien Amamadou de retour d'exil a passé les 2 dernières nuits en prison dans son pays. Rentré samedi après-midi à Niamey, l'ancien président du Parlement et candidat à la présidentielle de février 2016 a été arrêté à sa descente d'avion. Il est poursuivi dans l'affaire du trafic d'enfants dans laquelle sont également cités son épouse et 30 autres personnes. Plus de détails avec notre correspondant à Niamey, Abdulrazak Idrissa.
Après quelques instants passés à la maison d'arrêt de Niamey, l'ancien président de l'Assemblée nationale a été transféré à la prison civile de Filengué, située à près de 200 km de Niamey. C'est là-bas qu'il va passer son séjour en attendant une probable demande de mise en liberté provisoire qui sera introduite par son conseil d'avocat, Maître Mossi Boubacar.
Naturellement, nous allons demander à ce que soit relâché, parce que il ne s'agit pas d'un mandat de dépôt en exécution d'une peine de condamnation, mais il s'agit simplement de la peiner, de le présenter aux autorités judiciaires. Et cela, forcément, on doit le présenter devant les autorités judiciaires, parce que la gendarmerie ne peut pas le juger. Donc, il sera forcément présenté à un juge. Or, il a déjà un avantage certain, c'est que même les auteurs principaux de la procédure sont en liberté provisoire. Je ne vois pas comment est-ce qu'un complice va continuer à garder prison.
Abdulrazak Idrissa, à Niamey, pour VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
En Centrafrique, mobilisation générale pour accueillir le pape François, attendu à la fin de ce mois de novembre à Bangui. Une visite pleine d'espoir pour les Centrafricains qui y voient un début de solution à la crise qui mine leur pays depuis bientôt 3 ans. Le point avec notre correspondant à Bangui, Freeman Sipila.
Plusieurs chantiers sont en cours à Bangui en vue de préparer la venue du Saint-Père. Réhabilitation ou reconstruction des routes, des appels à la mobilisation et à la paix, des SMS envoyés par des sociétés de téléphonie mobile et des réunions inlassables. Beaucoup de Centrafricains que nous avons rencontrés pensent que la visite du pape François en Centrafrique est un début de solution à la crise dans le pays.
Ça peut apporter peut-être la paix.
Je crois qu'en République centrafricaine, il y a l'insécurité. Mais si le pape décide de venir, c'est-à-dire qu'il nous aime. Donc c'est à nous, les Centrafricains, de prendre conscience et de dire non à la guerre.
La venue du pape, c'est un début de solution à la crise centrafricaine parce que, vous savez, le pape, c'est un messager du Christ qui est porteur de bons messages, de messages de tolérance, de pardon.
La présence du pape ici à Bangui, c'est pour aider et à trouver une solution crédible pour la crise en Centrafrique.
Même réaction du côté de la communauté musulmane du 3e arrondissement lors d'une visite de l'ambassadeur américain à Bangui, Jeffrey Hawkins, dans le PK5. La communauté musulmane s'est dite favorable à la venue du souverain pontife en Centrafrique. Adia Asta, présidente de l'Organisation des femmes musulmanes de Centrafrique.
Monsieur l'ambassadeur, la population du 3e arrondissement est tout d'accord que le pape vienne à Bangui. Ça va nous aider, ça va toucher aussi le cœur de nos frères qui agissent rapidement. Nous ne sommes pas contre.
Maximilien est chrétien, mais dit n'appartenir à aucune église. Pour lui, ce sont les Centrafricains eux-mêmes qui peuvent ramener la paix dans leur pays. Et non la visite du pape.
Oh, je ne crois pas. C'est nous, les Centrafricains, nous devons mettre la main à la pâte pour que la paix puisse revenir dans le pays, même s'il ne vient pas. Donc c'est nous, les Centrafricains, chacun de nous doit essayer de dire non à la guerre, oui au retour de la paix.
Alors que tous les efforts se conjuguent pour réussir cet événement important, des rumeurs faisant état d'annulation de cette visite papale en raison d'insécurité circulent dans le pays. L'archevêque de Bangui, Mgr Dieudonné Zapalainga, dément ces rumeurs et rassure les Centrafricains.
Aujourd'hui, je peux vous confirmer l'arrivée du Saint-Père François en République centrafricaine. Rien n'a changé dans le programme. Le pape viendra en Centrafrique. Ça veut dire, à partir de maintenant, chacun doit se préparer pour créer la paix dans lui, autour de lui, pour que la sérénité revienne, afin d'accueillir le souverain pontife.
Selon le calendrier officiel, le pape François visitera la Centrafrique du 29 au 30 novembre 2015. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Fin du sommet du G20 en Turquie. Les chefs d'État et de gouvernement des États les plus riches de la planète ont exhorté aujourd'hui l'ensemble des pays du monde à apporter leur contribution à la gestion de la crise des migrants. Et ce, dans le communiqué final de leur sommet publié à Antalya. Nous appelons tous les États à contribuer à cette crise, à résoudre cette crise et à partager le fardeau qui y est lié, notamment par la relocalisation des réfugiés et l'aide humanitaire. C'est ce que souligne la déclaration du G20. Plus de 800 000 migrants venus principalement d'Afrique et du Proche et Moyen-Orient ont gagné l'Europe par mer depuis le début de l'année, la plupart en provenance de Turquie. L'Union européenne négocie en ce moment même avec la Turquie et les pays limitrophes de la Syrie, où une guerre civile brutale fait rage, pour qu'ils retiennent sur leur territoire les millions de Syriens qui fuient les hostilités. Et pour terminer, en marge du sommet du G20 en Turquie, Barack Obama et Vladimir Poutine ont eu hier une discussion sur l'urgence d'agir contre le groupe État islamique. Idriss Fall.
Ce tête-à-tête surprise a duré près d'une demi-heure dans un coin de la grande salle où se tenait le sommet. La rencontre est qualifiée de constructive pour Washington, mais pour Moscou, des divergences existent sur la tactique pour battre le groupe État islamique. Les deux hommes ont estimé que les terrifiantes attaques terroristes de Paris, revendiquées par le groupe État islamique, rendent encore plus urgente une solution au conflit syrien. Ils ont salué la réunion de Vienne sans faire de commentaires sur la place qui sera réservée au président syrien Bachar al-Assad. Samedi, à Vienne, les grandes puissances ont annoncé une feuille de route qui prévoit une rencontre entre l'opposition syrienne et le régime de Damas, la formation d'un gouvernement de transition et des élections d'ici 18 mois. La dernière rencontre entre Obama et Poutine remonte à fin septembre à New York, en marge de l'Assemblée générale de l'ONU. C'était peu avant le début de l'intervention militaire russe en Syrie.
Voilà, c'est tout. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet, c'est bien sûr voafrique.com et également sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.